Merci d'écouter RFI, les 7h30 à N'Djamena et Paris 6h30 à Conakry. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Andréane et bonjour à vous qui nous écoutez.
Le Tchad à la une de votre journal. Plus de 8 millions de personnes étaient appelées aux urnes hier.
Élections législatives, provinciales et communales. Trois élections simultanées pour mettre fin à 3 ans de transition. Un scrutin boycotté par une large partie de l'opposition. Et vous l'entendrez, à N'Djamena, les observateurs notent un faible engouement. 4 jours pour faire le point sur la lutte contre le terrorisme au Bénin. Le chef d'état-major de l'armée vient d'achever une visite dans le nord du pays. Quels constats, quelles annonces? On sera à Cotonou dans un instant. Alerte à la pollution aux microparticules à Abidjan. La qualité de l'air se dégrade dans la capitale économique ivoirienne et ceux qui travaillent en extérieur sont en première ligne. Au sommaire également, on évoquera ce rapport de l'UNICEF qui alerte sur le nombre d'enfants victimes des conflits en Afrique. On reviendra aussi sur la mort de Jimmy Carter, l'ancien président américain qui fut le premier chef d'État américain à fouler le sol subsaharien en 1978. Et puis notre dossier, ce matin, consacré à la Saint-Sylvestre. Comment s'organise-t-on pour fêter la fin de l'année sur le continent? Réponse à la fin de ce journal.
3 élections simultanées pour mettre fin à 3 ans de transition.
Plus de 8 millions de personnes étaient appelées aux urnes hier au Tchad. Scrutin législatif, provincial et communal. Un an après le référendum constitutionnel suivi de l'élection présidentielle. Un marathon électoral qui semble avoir peu mobilisé les électeurs. À N'Djamena, en tout cas, les observateurs notent un faible engouement, même si pour l'heure, l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections, n'a pas communiqué de chiffres officiels. À N'Djamena, la correspondance de Nadia Ben Mahfoud.
C'est dans un contexte d'appel au boycott de nombreux partis d'opposition, notamment des transformateurs de succès Masra, que les Tchadiens se sont rendus aux urnes hier. Le scrutin dénoncé par une majorité d'opposants comme gagné d'avance par le MPS, le parti au pouvoir, n'aura pas soulevé les foules comme les précédents, explique le rapporteur général de l'Observatoire des associations pour les processus électoraux au Tchad, Gombo Breyouzibé. Globalement, le vote s'est déroulé dans le calme, pas d'incident majeur signalé à ce stade. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 15 janvier par l'Agence nationale de gestion des élections. En attendant, reste encore à éclaircir les raisons précises de ce manque d'engouement des électeurs. Les prochaines élections seront les sénatoriales en mars 2025, des élections indirectes cette fois qui concerneront les grands électeurs élus ce week-end. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Cette journée électorale au Tchad, marquée aussi par un appel à la grève de plusieurs médias privés, mouvement finalement assez peu suivi si on le compare à ceux du 23 et 24 décembre dernier. Les médias privés demandent à la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, l'AMA, de leur verser leurs subventions annuelles. Le Gabon, lui, va entamer un processus de révision du fichier électoral à partir du 2 janvier et jusqu'à la fin du mois. Annonce ce week-end du ministre de l'Intérieur une rectification des listes électorales qui concerne en priorité les jeunes et ceux qui souhaitent changer de centre de vote. Les prisonniers en détention provisoire seront eux aussi recensés pour leur permettre de voter.
RFI 7h33 à Cotonou, au Bénin, le chef d'état-major de l'armée de retour du nord du pays.
Le général de division Fructueux Gbagidi a passé 4 jours dans l'Alibori et le Borgou, département dont certaines zones ont subi des attaques terroristes. Une visite durant laquelle il a donc été beaucoup question de lutte contre le terrorisme. À Cotonou, le récit de Jean-Luc Aplogan.
La tournée commence par Parakou, 3 heures de rencontre avec la communauté Peul, la parole est libre. Ses représentants se sont plaints de stigmatisation régulière dont ils sont l'objet. Les propositions de solutions plaident pour une implication de chacun et de tous dans la lutte contre l'extrémisme violent et pour une coproduction de la sécurité entre l'armée et la communauté Peul. La suite se déroule sur le terrain, visite du théâtre de l'opération Mirador, le dispositif de riposte et surtout 2 sites objets d'attaque récemment. En juillet, une antenne de African Park a été la cible d'une attaque meurtrière, 12 morts, dont 7 militaires. Puis l'étape de Malanville, là où l'oléoduc nigérien a été attaqué le 2 décembre dernier. On apprend que l'ambassadeur de Chine était dans la zone récemment. WAPCO, l'opérateur chinois du pipeline nigérien, y a construit une station de pompage. Selon nos informations, à la fin de la tournée, le dispositif autour du pipeline et de certaines positions a été renforcé. Tristallon avait annoncé des investissements en cours. Des livraisons de matériel sont planifiées pour le premier trimestre 2025. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
En bref, au Mali, l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'un des principaux partis politiques du pays, tenait ce week-end sa 20e conférence nationale. C'était à Koulikoro, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bamako. Une réunion en présence d'au moins 5 des 11 opposants maliens, récemment libérés après 5 mois de détention. L'occasion pour les membres du parti de rejeter les accusations d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de troubles à l'ordre public visant le groupe des 11. Moustapha Diko, le porte-parole de ces opposants, a également appelé à la libération, je cite, de tous les autres détenus d'opinion.
C'est un fléau qui touche de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier en pleine saison sèche. Plusieurs villes sont victimes de pollution aux microparticules.
La qualité de l'air se dégrade et le ciel se voile. Conséquence, des poussières du désert ramenées du Tchad par l'Harmattan. Exemple à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où la concentration de particules fines est en ce moment jusqu'à 12 fois supérieure aux normes de l'OMS. Une pollution qui représente un risque pour la santé, notamment pour ceux qui travaillent en extérieur. Reportage de Benoît Almeras.
Ils sont des dizaines autour de ce carrefour de Cocody, petits commerçants, chauffeurs, policiers. Annette, tous, cette quinquagénaire balaie la chaussée.
Il y a soleil, il y a poussière, ça nous fatigue même.
Là, en ce moment, avec l'Harmattan, c'est plus dur.
C'est trop dur même.
Annette porte un masque en tissu. L'indice de qualité de l'air est en ce moment deux fois pire qu'en temps normal. Le docteur Sylvain Niamien surveille les particules fines en temps réel.
Depuis deux semaines, on observe une très forte concentration qui part de 8 heures jusqu'à descendre vers 22 heures, 23 heures. Un maintien permanent de ce niveau de concentration-là.
Le risque, c'est de contracter ou d'aggraver des maladies respiratoires. Alors ce spécialiste des sciences atmosphériques conseille d'éviter les zones de fort trafic.
Cela permet dans un premier temps de diminuer sa surexposition. À défaut de pouvoir le faire, portons juste un masque communément appelé en Côte d'Ivoire cache-nez. Ça nous permettra de pouvoir filtrer une bonne partie des particules.
Mais pour Jenaba, une autre balayeuse, il est impossible d'arrêter le travail.
On ne peut pas arrêter, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas arrêter. On s'est débrouillé pour nourrir la famille, les enfants. Si j'arrête là, il va faire comment?
Selon les estimations, près de 400 000 Africains meurent chaque année en lien avec la pollution de l'air extérieur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
2024 restera l'une des années les plus tragiques pour les enfants vivant en zone de conflit. C'est l'alerte lancée ce week-end par l'UNICEF.
Et selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Afrique est en première ligne. Plusieurs pays du continent se sont pourtant engagés à garantir la sécurité des enfants et protéger les écoles. Des promesses, Christina Okello, qui ne sont pas suffisamment tenues.
Au Soudan et en Somalie, les conflits ont forcé des millions d'enfants à fuir, détruisant écoles et foyers et les privant d'éducation. Selon un rapport de l'UNICEF, la situation au Soudan est particulièrement dramatique, avec une famine déclarée dans 5 régions du Darfour Nord, tandis qu'en Somalie et au Sahel, des milliers d'enfants souffrent de malnutrition avec des impacts durables sur leur santé mentale. À travers le continent, des violences sexuelles continuent de toucher de nombreuses filles et femmes, tandis que la RDC reste l'un des pays les plus dangereux pour les enfants, avec des enlèvements, l'enrôlement forcé et des épidémies de rougeole et de polio qui aggravent une situation déjà critique. Pour l'UNICEF, il est urgent que les parties en conflit garantissent un accès humanitaire pour protéger les enfants. Bien que 30 pays africains aient signé la déclaration sur la sécurité dans les écoles, l'organisation appelle le reste du continent à rejoindre ce mouvement. Le rapport souligne cependant quelques progrès en citant des pays comme le Rwanda et la Sierra Leone qui ont pu reconstruire après des années de conflit en plaçant l'éducation et la santé des enfants au cœur de la priorité.
Christina Okello.
Homme de principe qui a vécu au service des autres, défenseur des droits des plus vulnérables, les dirigeants du monde entier rendent hommage à Jimmy Carter ce matin.
L'ancien président américain et prix Nobel de la paix est mort hier soir, il avait 100 ans. De son mandat, on retient évidemment les accords de Camp David ou encore l'échec dans la libération des otages américains en Iran. Mais ce que l'on sait moins, Paul Lorgerie, c'est qu'il a été le premier président américain à se rendre en Afrique subsaharienne.
Jimmy Carter aimait dire que, lors de son mandat, il avait fourni plus d'efforts à pacifier l'Afrique australe que le Moyen-Orient. C'est en tout cas ce que rapporte la professeure d'histoire Nancy Mitchell, autrice d'un ouvrage intitulé « Jimmy Carter et l'Afrique, race et guerre froide ». Fait d'armes souvent omis, son implication dans le dossier rhodésien, en pleine guerre froide, refusant de soutenir un gouvernement raciste mais ne souhaitant pas que le bloc de l'Est s'empare du sud de l'Afrique, ses efforts ont mené aux pourparlers de Lancaster House, qui ont ensuite débouché sur les premières élections libres d'un nouvel État, le Zimbabwe. Lui qui avait été témoin de la ségrégation dans le sud des États-Unis d'où il est natif, pensait que les luttes du continent africain et de son pays étaient liées. Il fut d'ailleurs le premier président américain à fouler le sol subsaharien en 1978 au Libéria, pays colonisé en 1822 par l'American Colonization Society. Il y retournera des années plus tard dans le cadre de sa fondation, le Carter Center, aujourd'hui actif dans la surveillance des élections et les domaines des droits de l'homme et de la santé à travers le monde.
Joe Biden a réagi dans la nuit. L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire, a-t-il déclaré, avant de décréter un jour de deuil national le 9 janvier aux États-Unis. Biographie complète de Jimmy Carter à retrouver sur RFI.fr.
On passe à présent au dossier de cette édition avec cette question que l'on vous a sans doute déjà posée. Qu'avez-vous prévu pour le nouvel an ?
Partout, on se prépare à fêter comme il se doit à la fin de l'année. C'est le cas par exemple à Lubumbashi, en RDC. Certains vont passer la Saint-Sylvestre en famille, d'autres préfèrent se rendre au restaurant. Et déjà, certains établissements font le plein de réservations. Reportage de Denise Maio.
Pour la Saint-Sylvestre, Aline Poyi, un avocat rencontré au centre-ville de Lubumbashi, a déjà arrêté son programme.
Cette journée-là, ça sera une journée exceptionnelle. Dans les avant-midi, on reste à la maison et dans les après-midi, venir au resto.
La plupart des restaurants affichent déjà complet. Au Steakhouse, par exemple, sur 150 places, 90 sont déjà réservées. Hardy Mouchamouka est chargé du service commercial.
Il y a des clients qui appellent déjà pour des réservations. Mais ce qui est vrai, qu'il n'y a pas vraiment l'argent en circulation. Un groupe de gens qui ont l'argent sont en train d'aller à l'étranger pour fêter.
Malgré la crise ressentie, La Brioche, une pâtisserie qui sert aussi des plats cuisinés, a également fait le plein des réservations pour ce 31 décembre. Le restaurant de l'hôtel Lubumbashi, par contre, se tourne déjà vers 2025. Le jour du nouvel an, il compte réaliser un chiffre d'affaires de 6 000 $, explique avec sourire Étienne Kabimba, son gérant.
L'année 2025, elle sera bonne. On a 300 places réservées et que le premier, ça sera le mieux d'ailleurs de toutes les années passées.
Si des centaines de personnes iront au restaurant à la Saint-Sylvestre, des milliers d'autres louchois vont plutôt fêter le nouvel an en famille. Denise Maio, Lubumbashi, RFI.
Il y a donc ceux qui se réunissent en famille. Il y a aussi ceux qui traversent une période plus difficile en cette fin d'année. C'est le cas par exemple des enfants malades qui vont passer la Saint-Sylvestre à l'hôpital. Au Cameroun, l'association Enzo Hope a pensé à eux. Des volontaires font la tournée des hôpitaux de Yaoundé pour offrir des cadeaux et partager un repas avec les enfants malades. C'est ce qu'explique Ali Lori, présidente de l'association Enzo Hope.
Il y a ces gens-là qui n'ont même pas de quoi manger ce jour, qui n'ont pas pu offrir des jouets à leurs enfants et tout. Donc l'association Enzo Hope, nous, on s'est dit, on va aller à la rencontre de ces personnes-là, essayer d'offrir ce qu'on peut, essayer d'offrir ce qu'on a à ces enfants-là. Donc voilà pourquoi en cette période de fête, nous, on a lancé un appel à dons. Il y a des personnes qui nous ont aidés. On a essayé de se cotiser comme on peut pour pouvoir offrir des jouets et un casse-croûte à ses enfants dans les hôpitaux. Donc on a fait le choix des hôpitaux parce qu'on a voulu apporter un peu de fête à cet endroit qui est souvent décrit comme un endroit morbide, entre guillemets, de maladie et tout. Donc on a voulu apporter un peu de fête, un peu de gaieté, un peu de joie, donner du sourire aux enfants malades.
Ali Lori, présidente de l'association Enzo Hope, au micro de notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena. Dossier complet à retrouver sur notre site RFI.fr. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. La suite d'RFI Matin, c'est avec Andréane Mellard.
Et merci Arthur Ponchelet. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon anniversaire et à vous dire à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mellard.
7h44 à Paris, les titres de ce lundi 30 décembre. La visite de François Bayrou à Mayotte, il est arrivé ce lundi matin. Le Premier ministre français accompagné de 5 ministres, dont celui de l'Outre-mer, Manuel Valls, et celle de l'Éducation, Elisabeth.